particulier. Dans l'ombre, je vous disais que ils sont pas tous bons, hein. On a beau travailler dans l'humilité, ou dans l'ombre d'une personne, mais ça veut pas nécessairement dire que c'était une bonne quoi t'as dit? Une bonne ombre. Ben, l'ombre était bonne dans le cas de ce qu'on va voir ce soir, mais la personne qui est dans l'ombre n'a pas agi bien. Et ce qu'on va voir dans 2 Rois 4. Et puis, je vous avais dit qu'on va regarder particulièrement l'histoire de 2 Rois, chapitre 4 et chapitre 5. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Ah, c'est pas grave. On va le lire ce soir. On va lire ça ce soir. 2 Rois, chapitre 4 et chapitre 5. Et puis, il y a un homme en particulier que je veux qu'on attire notre attention, mais en fait, il y a d'autres personnages, des petits personnages qui sont encore plus loin, si je peux dire, qui sont encore plus insignifiants dans le texte, dans l'histoire du monde, mais en même temps, on les a dans la Bible, on les a dans notre parole. Puis il y a de quoi, je suis convaincu, à apprendre de ce que Dieu nous a laissé dans sa parole à travers ces petits personnages-là. Alors, c'est ce qu'on va voir ce soir, Géasi particulièrement. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Géasi? Oui. Alors, c'est le personnage qu'on va regarder et avec son entourage. Géasi était le serviteur d'Élisée. Élie, après sa défaillance, vous vous souvenez, où est-ce qu'il était dans la grotte, là, puis un peu découragé, il avait reçu l'ordre de l'Éternel d'oindre Élisée pour qu'il soit prophète à sa place. Et il s'est empressé d'obéir à son commandement. Et puis, Élie s'était rendu voir Élisée, qui est en train de labourer avec 12 paires de bœufs. Et puis, celui-ci, bien disposé et bien intéressé de suivre Élie. On connaissait déjà Élie pour sa réputation, puis c'était un privilège pour Élisée, qui, je crois en passant, était un de ses fils de prophètes, qui avait été formé dans l'école de prophètes, qui, pour lui, c'était un privilège bien particulier que de travailler avec Élie, prendre la relève. Il y a des commentateurs qui mettent le ministère d'Élie et Élisée qui ont marché ensemble pendant 7 ans, à peu près. On avait posé la question la dernière fois, là. J'avais pas la réponse brûle pour point, puis j'ai pas toutes les explications et la compréhension de pourquoi certains commentateurs arrivent à ça. Mais grosso modo, ça pourrait ressembler à ça. Bref, on connaît la suite de l'histoire d'Élie. Il a été enlevé par ses chariots qui sont venus le chercher. Et puis, Élisée, qui avait eu ce privilège de voir son maître, qui appelle au moment de l'enlèvement de Élie, qui l'appelle même père, qui reflète vraiment cette relation-là dans laquelle Élisée avait grandi avec Élie, et qui l'appelait père, et qui est en train de s'en aller. Bref, ça l'emmène à une pleine identification à Élie. On arrive dans une portion d'histoire, dans 2 Rois, où Élisée a pris le ministère d'Élie. Il a pris, vous souvenez, à un moment donné, ben Élie, quand il est remonté, vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Son manteau, qui était vraiment le symbole du prophète, et le ministère que Élisée allait prendre aussi. Et vous vous souvenez quand que Élisée, ben il était maintenant resté tout seul, il est retourné proche du Jourdain et les fils des prophètes qui étaient 50 sont venus à sa rencontre et l'ont accueilli comme maintenant leur nouveau maître dans un sens là. Alors mais Élisée prend lui aussi un serviteur sous son aile qui va le suivre. Et c'est bien intéressant de voir la relation que ce serviteur-là, Géasi, va avoir avec son maître Élisée. Bref, on va voir ça dans le chapitre 4, dans les versets 1 à 7. On avait, si vous vous souvenez, François Lalonde, est-ce que c'est bien ça, avait prêché sur ce texte-là quand il était venu, 1 à 7, où il y avait ces cruches que Élisée avait dit va chercher et puis on va verser de l'huile et puis voici le contexte des versets 1 à 7. On va prier et après ça on va regarder la première occurrence où on voit ce serviteur de Élisée, Géasi, puis il va entrer en, dans le portrait. Seigneur, on vient devant toi pour te louer pour ta parole. On veut ce soir l'ouvrir. On veut te connaître. On veut pas simplement, Dieu, apprendre à connaître un homme qui soit Élisée ou Géasi, mais Dieu, on veut connaître toi derrière tout cela. On veut comprendre, Seigneur, qui tu es. On veut connaître ton plan, ton œuvre. Et puis, on croit, Dieu, que tu as encore quelque chose à nous enseigner. On croit que ta parole, elle est vivante, qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Et c'est ça notre attitude, Dieu, que ce soir tu viennes nous parler et que tu nous donnes de bons exemples qu'on peut mettre en pratique et que ces mauvais exemples qui sont même dans ta parole, qu'on puisse avoir ce discernement d'apprendre de leurs erreurs et nous éviter aussi bien des maux. Alors, dans le nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie ces choses. Amen. Commençons dans 2 Rois, chapitre 4, les versets 8 à 17. Un volontaire qui voudrait lire ça, 8 à 17. Première des choses, Géasi, c'est la première fois qu'on le voit là. Qu'est-ce qu'on apprend de cet homme-là? Qu'est-ce que vous voyez dans le texte qui nous est révélé? Qu'est-ce que ça dit, Carole? Alors, serviteur d'Élisée. Absolument. Quoi d'autre? Il fait ce qu'Élisée lui demande. Il est à sa disposition. Il est à son service. On a aussi ce contexte-là où, par exemple, verset 8, un jour, Élisée passait par Sunem, d'où le nom la Sunamite. Hein, on parle de la femme Sunamite. Mais il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Quand Élisée passait par Sunem, cette femme-là avait reconnu que Élisée était quelqu'un de particulier. Verset 9, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Qu'est-ce qu'on apprend de cette femme-là aussi? Tantôt, je disais que on peut apprendre d'Élisée, qui est un peu vraiment en exposition dans son rôle de prophète. On a Géasi, qui est le serviteur d'Élisée. Puis on a cette femme-là, qui, elle, habite à Sunem. On connaît pas grand-chose d'elle, mais il nous est donné quand même quelques éléments à son sujet. Qu'est-ce que Dieu nous communique à son sujet? Elle est hospitalière? Ouais. OK, alors elle pratiquait l'hospitalité. Qu'est-ce que ça veut dire, Karen? Oui, absolument, absolument. Pour elle, c'est important, elle dit à son mari, elle a eu ce discernement de voir cet homme qui est un saint homme de Dieu, et pour elle, ça l'a interpellé. Ben, offrons-lui une place. Offrons-lui une place, excusez, pour l'accueillir et en prendre soin. Alors, excusez-moi. Alors, elle communique à son mari le bien qu'il y aurait justement de faire une maison. Regardez, faire une chambre. Verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs. C'est une bonne idée de mettre des murs. un toit, pas de mur, ça va mal. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Qu'est-ce qu'elle avait compris de cet homme-là, cette femme-là? On a dit c'est une femme de distinction. Qu'est-ce qu'on connaît d'elle aussi? Elle est hospitalière. Elle a ce discernement d'être au-devant du besoin de cet homme-là. C'est une femme qui, avec son mari, ont de l'argent. Ben oui, ils ont les moyens. Hein, comment? C'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est ça. Elle a vu son besoin, puis elle a voulu combler son besoin. C'était une attention vers la personne plutôt que, comme tu dis, une attention envers elle-même, puis de dire, je vais prendre tout ce que cet homme-là peut m'offrir. Et en fait, même la façon que elle a placé la chambre haute, c'était selon, puis on va voir un petit peu plus loin dans le texte, à mon avis, selon l'intérêt d'Élisée aussi. Selon le style de vie que Élisée menait. Un prophète comme Élie ou comme Élisée, est-ce qu'il vivait dans l'abondance ou dans le tape à l'œil ou dans le luxe? C'est ça, c'était le mot que je cherchais. Non. Il cherchait à vivre dans la modestie, dans la simplicité. Et je crois que cette femme-là l'a bien compris que ce qu'Élisée avait besoin, c'est un lit pour se reposer. Merci, Mélissa. Un lit pour se reposer, un chandelier pour le soir, pour se faire de la lumière, et puis un toit puis des murs pour le couvrir un peu, là. Alors, cette femme-là était concernée par cet homme-là, par Élisée, était attentionnée, et même Élisée a particulièrement apprécié son intervention. Regardez le verset 13. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? » C'était évident pour Élisée, puis pour Géasi, j'imagine, qui était tout près d'Élisée constamment, ben, de voir cet empressement que cette femme avait de... Ben, « Élisée, tu passes souvent chez nous. Regarde, on va te faire un endroit où que n'importe quand tu vas passer, tu auras ta chambre, puis tu pourras t'arrêter. » Maintenant... quelle relation a Élisée puis Géasi? On disait tantôt, ben Géasi répond et le serviteur il répond. Comment voyez-vous la mise en scène, si je peux dire ça, le contexte de parce que là Élisée dit qu'est-ce qu'on peut faire pour elle à partir du verset 12. Là, comment voyez-vous la mise en scène à cette situation-là? Un homme de confiance, absolument. Et on va voir ça même tantôt. Élisée va envoyer Géasi pour aller faire, ou du moins, il lui a donné une mission d'aller faire un miracle, ce qui n'a pas fonctionné avec Géasi, on reviendra sur ça tantôt, mais c'est absolument un homme de confiance. Quoi d'autre aussi? Oui, vas-y, Céline. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est quoi qu'elle répond, cette femme-là? Ça veut dire quoi, ça? Je suis bien. J'ai tout ce que j'ai de besoin. Tu disais tantôt, Céline, elle n'a pas accueilli cet homme-là dans le but de tirer profit de lui. Et même quand que lui vient lui offrir, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Regardez, fin du verset 13, je continue de lire. « Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Et elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Je suis comblé. Qu'est-ce que je peux vouloir de plus? En un mot, on pourrait qualifier ça comment? Contentement. Contentement. Quelqu'un connaît 1 Timothée 6:6 par cœur? C'est ça, exactement. Une grande source de gain que la piété avec le contentement. Je crois que cette femme-là, c'est un de ses traits de caractère qui est en train de ressortir. Je trouve ça intéressant de voir ce Géasi qui est au service d'Élisée, qui est en relation à parler avec cette femme-là. Qu'est-ce qui va se produire dans son cœur? Qu'est-ce qui va... comprendre, qu'est-ce qu'il va voir, qu'est-ce qu'il va se révéler de lui-même. Je ne sais pas si vous avez vu le scénario, comment les choses se produisent. Regardez verset 12. Géasi, verset 11, il s'est retiré, est allé dans la chambre haute, il est couché. Puis là, il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Tsunamite. » Alors, Géasi l'appelle et elle se présenta devant lui. La femme vient devant Géasi. Et là, Élisée dit à Géasi, qui la femme est devant lui, dis-lui, voici, tu nous as montré cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et là, verset 14, et il dit, que faire pour elle? Et Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Alors là, on est dans une deuxième circonstance. Elle se présente à la porte, verset 16, et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Et cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Il semble y avoir, Élisée demande à Géasi, va la chercher. Elle vient, se présente au pas de la porte. Et là, Élisée dit à Géasi, demande-lui, comment? C'est ça. Alors, Géasi devient le porte-parole du prophète pour cette dame-là, mais c'est intéressant de voir que Élisée ça s'adresse pas directement, mais elle comprend bien la question, elle répond directement aussi avec qu'est-ce que je peux répondre, qu'est-ce que je peux demander, de toute façon, j'habite au milieu de mon peuple. Bref, quelle promesse est-ce que Élisée fait à cette femme-là? D'être enceinte, d'avoir un fils. Elle était dans une situation précaire. Son mari est vieux, va la quitter bientôt, et puis elle n'a pas d'enfant. Alors la disette, la difficulté l'attend très bientôt, si elle n'a pas d'enfant. Et là, Élisée promet, lui dit, tu vas embrasser un fils à cette même époque. Est-ce que c'est arrivé? Oui, elle a tenu un fils dans ses bras à la même époque. Mais ça sera pas long, Normande. Mais pourquoi est-ce qu'elle voulait pas y croire? Pourquoi est-ce qu'elle a répondu comme ça à Élisée? Elle voulait pas? C'est ça. Dis pas n'importe quoi, là. Qu'est-ce que t'as dit, Yvan, tantôt? Elle voulait pas être déçue. Elle voulait pas se faire un faux espoir. Oui, Danny? Ouais. Quelle était une chose, je pose la question sans qu'on connaisse la réponse, quelle était la connaissance d'Élisée de cette femme-là, de la relation qu'il avait avec cette femme-là comparativement à Géasi? Parce qu'on va voir par la suite aussi dans le texte que ce serviteur-là fait vraiment la tâche de premier contact, et puis alors c'est peut-être pour ça qu'il a cette information-là. Mais en même temps, est-ce que c'était sans que Élisée le sache? J'ai l'impression qu'Élisée devait le savoir. Mais bref, c'est de ce qu'on voit quand même dans le texte, c'est Géasi qui a rapporté cette parole-là. Puis cette femme-là avait même pas osé le demander. Puis elle disait, ben j'habite au milieu de mon peuple. Ce qu'on voit, c'est une femme de distinction, une femme qui aime son peuple, qui, je suis convaincu, qui aime l'Éternel aussi. Elle veut faire du bien à un saint homme de Dieu. Elle veut l'accueillir chez elle. Et elle en a aussi la bénédiction que Élisée va en prendre soin. Maintenant, on va continuer d'avancer dans le texte. On va lire le verset 18 à 37. Dieu donne un fils à cette femme-là, et puis là, il arrive de quoi? Qui semble aller complètement à l'envers de ce que elle a obtenu comme promesse. Une personne qui voudrait lire, c'est du narratif, hein, ce qu'on lit, fait qu'on n'a pas le choix de lire plusieurs versets, là. 18 à 37, ça fait 19 versets. Une personne qui voudrait lire ça? OK, Mélissa. OK. Comment trouvez-vous cette histoire-là? Spécial, hein? On pourrait faire un film avec ça? Ça serait probablement classé dans la science-fiction, puis pourtant, c'est bel et bien vrai. C'est vraiment particulier, hein? Mais cette femme-là, l'enfant a grandi, et puis un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il a commencé à se plaindre de sa tête. Ma tête. Et là, le père a dit, ben porte-le à sa mère. Et le serviteur, verset 20, l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur ses genoux et sa mère jusqu'à midi. Puis, il mourut sur les genoux de sa mère. Cet enfant-là est mort. Pourquoi? Pourquoi cet enfant-là est mort? Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, dans la tête de cette femme-là? On le sait un peu parce que le texte l'a dit, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi sa première question qui a pu lui venir en tête? Elle était fâchée ou elle comprenait pas? Elle avait un plan dans sa tête. Tout va bien. On peut pas rajouter plus que ce que le texte dit. Elle a dit à son mari, tout va bien. Elle est partie avec l'âne. Elle a dit au serviteur, tu t'arrêtes pas. Tu m'emmènes jusqu'à Élisée. Et puis là, Élisée voit la femme arriver. Il envoie Géasi. Puis qu'est-ce qu'elle dit à Géasi? Bien. ça sera pas long, Naomi, j'ai vu ta main. Hein. Elle dit au verset 26, « Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Puis elle répond à Géasi, « Bien. » Qu'est-ce que ça veut dire, Naomi? Que personne n'allait rentrer là, parce que c'était la chambre, mais comme tu dis, je pense que ça annonce les prémices de ce qu'elle avait comme plan. Parce que c'est là où elle s'en allait, c'était aller chercher Élisée. Elle n'allait pas aller chercher son mari, ou elle n'allait pas chercher Géasi. Elle est allée chercher Élisée. Puis en fait, on va continuer de lire le verset 7. Dès qu'il fut arrivé auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Puis qu'est-ce que Géasi a voulu faire? Ben, tasse-toi de là. C'est ça. Tasse-toi. Tu peux pas toucher cet homme-là. Il a voulu la tasser. Et puis l'homme, il dit. L'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Elle est affligée, elle est en tristesse, elle est en souffrance, elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, ne me l'a point fait connaître. Et de Élisée, c'est Géasi qui voulait la tasser d'Élisée. Et là, regardez le verset 28, sa réaction, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Tantôt, je disais, c'est quoi sa première question qui a pu venir en tête? Je crois que c'est un peu ça, parce que ce qu'elle a fait, première des choses, je me rends voir Élisée, puis j'ai une question à lui demander. Je t'ai pas demandé de fils. J'ai demandé de pas me tromper. Et là, Élisée dit à Géasi, saint Érin, prends mon bâton dans la main et pars. Mais si tu rencontres qui que ce soit, tu le salues même pas. Fin du verset 29, tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La femme, elle, qu'est-ce qu'elle voulait? Élisée. Qu'est-ce que ça dit? C'est vrai. À Élie. Ouais, c'est vrai, j'avais pas fait le lien, mais effectivement, c'est la même chose qu'Élisée avait dit à Élie. Puis elle a dit, non, je reste avec toi. Géasi est parti, puis Élisée il a décidé d'accompagner en arrière, et puis ils ont suivi par la suite. Oui, Pauline. Qu'est-ce qu'elle avait discerné d'Élisée? C'est un prophète, un saint homme de Dieu. Qu'est-ce qu'elle voyait puis qu'elle désirait, si je peux dire, en cet homme-là? C'est cette relation-là que cet homme-là avait avec Dieu. Qu'il pouvait agir et intervenir au nom de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, Yvan? C'est ça que tu veux dire? Oui, José. Ouais. Ouais. Elle cachait tout le monde, puis après, tout le monde savait qu'en allant voir c'est ça. Elle dirait qu'il est mort, mais elle le sollicite. Normalement, généralement, quand quelqu'un est mort, il n'y a pas d'autre espoir de le voir revivre, puis elle va le voir rencontrer, comme tu dis. Ouais. Oui, cette femme-là manifeste absolument une foi. Et Élisée, oui, c'est ça. Oui, et la naissance de cet enfant-là était déjà en soi un miracle. Alors, elle avait confiance, elle avait la foi que finalement, ce que Élisée pouvait faire, évidemment, au nom de Dieu, ben, pouvait être encore aussi un miracle. Alors oui, absolument, il y avait de la foi. Et Élisée, Dieu lui avait pas fait connaître. Il avait pas fait connaître que cet enfant-là était mort. Dieu a permis que cette femme-là se rende jusqu'à Élisée, puis elle lui exprime à ses oreilles, de sa propre voix, que son fils était mort. Maintenant, Guéhazi se rend là, il monte dans la chambre haute, il prend le bâton à Élisée, il fait ce qu'Élisée demandait de faire, puis ça marche pas. Pourquoi? Il ne doit pas y croire. OK. Verset 31. Guéhazi, il les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, il lui rapporta la chose en disant, l'enfant, il s'est pas réveillé. Verset 32. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort et couché sur son lit. C'est ça. Le centenier avait dit à Jésus simplement une parole. Ouais. Comment? Elle non plus, elle l'a pas dit, mais elle avait la foi de se rendre jusqu'à Élisée pour lui demander. Une profonde déception. Il y avait Renard qui avait levé la main tantôt. Je vais revenir, Normand, de ce que tu as dit. Vas-y, Renard. Elle voulait rencontrer Élisée. Elle voulait que ce soit lui qui vienne. Elle allait le chercher. Puis Normande, comme tu dis, il y avait de l'amertume, une profonde déception, tu disais, Céline. Évidemment, de la tristesse. Ce que on peut dire, c'est ce que le texte dit, c'est-à-dire, elle pose la question. Est-ce que j'ai demandé un fils? Et je t'avais pourtant dit, ne me trompe pas. Alors, je peux pas dire plus que ce qu'on a là, mais on voit qu'il y a une amertume, puis une incompréhension, mais une déception, mais il y a aussi une démarche de cette femme-là qui s'est rendue à Élisée. Puis quand même qu'Élisée envoie son bâton avec Guéhazi, elle dit non, elle dit c'est toi. Elle dit je veux rester avec toi, puis je veux que tu viennes. Paul, t'as levé la main après ça, David. C'est quoi qui allait faire que ça allait marcher? Je peux poser ça, c'est comme ça, là. Mais c'est Dieu qui allait ressusciter. C'est Dieu qui allait ressusciter. C'était pas un bâton, c'était pas la veste du prophète, c'était pas le prophète comme tel qui avait acquis une réputation. C'est Dieu. Puis cet homme-là, son cœur était où pour Dieu? On va voir par la suite que on continuera pas l'histoire plus loin ce soir, là. On va finir les commentaires puis on va arrêter là. Mais on va voir plus tard dans l'histoire que Guéhazi est, à mon avis, bien loin d'être un homme de Dieu. Bien loin d'être un homme qui a un cœur sensible à l'Éternel. Effectivement, comme tu dis, Paul. Oui, David? C'était Dieu, c'est ça. Absolument. Oui, merci. C'était très pertinent, David. Effectivement, elle n'est pas arrêtée à son mari. Elle n'est pas arrêtée non plus à Guéhazi. Ça va bien. Comment interpréter ses réponses à son mari? Ça va bien. Puis même si c'est pas un jour de sabbat, même si c'est pas quelque chose de particulier, on s'en va là-bas, elle dit à Guéhazi, tout est bien, mais comme tu dis, elle avait cet homme-là qu'elle voulait rencontrer, qui pour elle est plus, à mon avis, qu'un homme Élisée, mais qui est représentant de Dieu. Et c'est là qu'elle voulait se rendre. Maintenant, Élisée, c'est quoi, lui, sa foi? Imaginez Élisée qui entre dans la chambre haute, dans sa chambre, Guéhazi qui a mis le bâton sur le visage, que ça n'a pas marché. Cet homme-là devait lui aussi avoir de la foi, même si c'est un prophète. Et ce qu'il a fait, c'est ce qu'on peut voir, c'est qu'il est monté dans la chambre, il s'est couché sur l'enfant, face à face. Le texte dit il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Verset 35, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis il remonta et s'étendit à nouveau sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois et ouvrit les yeux. L'enfant était mort. Est-ce que j'ai manqué? Il a prié? À quel verset? Verset 33. Élisée entra et ferma la porte. sur eux et il pria l'Éternel. C'était effectivement le point de départ de tout ça, là. C'était pas simplement un scénario, mais c'est Dieu, là, comme on disait tantôt, c'est Dieu qui a, j'allais dire, guéri, qui a ressuscité cet enfant-là, là. Et là, verset 36, Élisée appela Géasi et dit, appelle cette tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, il dit quoi? Prends ton fils. Imaginez cette femme qui avait reçu d'un enfant miraculeusement, qui plusieurs temps après, cet enfant-là est mort sur ses genoux et qui là maintenant revient dans la chambre et qui peut reprendre son enfant. Tout cela était l'œuvre de Dieu par un homme, Élisée, qui était disposé à être évidemment le serviteur de l'Éternel. Et elle alla, verset 37, se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Qu'est-ce qu'on apprend de Géasi? Vas-y, Gaétan. C'est ça, une reconnaissance envers cet homme-là. Et puis, qui lui a rendu son fils, elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna. Bref, on a beaucoup à apprendre, je crois, de cette femme-là, qui montre de l'hospitalité, montre de l'humilité, montre de l'intérêt envers ou du discernement en reconnaissant cet homme-là qui est un homme de Dieu. Et Géasi, on le voit intervenir, c'est la première fois qu'on le voit en relation avec Élisée, mais je crois qu'on est en train de mettre la table aussi pour ce qui s'en vient. Géasi est en train de participer à l'œuvre de Dieu, est en train de voir, d'entendre et même de dire des choses qui viennent de son maître, qui concernent l'œuvre de Dieu. Mais quel effet est-ce que ça va faire dans son cœur? Probablement zéro. Quel effet est-ce que, quelle réaction, qu'est-ce que ça va créer en lui? On a une femme qui a répondu à Élisée, j'habite au milieu de mon peuple, je vis dans le contentement. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que là où Géasi va chuter, c'est exactement le contraire de que cette femme-là a répondu. Souvenez-vous de la suite de l'histoire? On verra la semaine prochaine, mais Géasi, il y avait l'amour de l'argent, ce qui a conduit à sa perte. On va arrêter là pour l'instant, mais absolument, parce que finalement, on a le même Dieu que ces femmes-là. Est-ce que Dieu est au contrôle de ces mêmes choses-là encore aujourd'hui? Absolument. Est-ce que Dieu est encore souverain sur la stérilité ou sur la fertilité? Absolument. Et c'est ça, absolument, ça peut créer de l'espoir. Et ces femmes-là, comme d'autres qui n'ont peut-être pas eu d'enfants, ce qui est à ressortir, c'est leur attitude face à Dieu et comment est-ce qu'ils ont continué de marcher malgré les circonstances avec cet homme-là, avec Dieu, avec leur mari aussi. Mais comme tu dis, c'est le même Dieu qui a opéré ces miracles-là puis qu'on a l'occasion d'être en relation aujourd'hui avec lui. La semaine prochaine, on continuera avec Naaman. Puis là, on vient de voir une femme de distinction. La semaine prochaine, on va voir une petite fille qui, elle aussi, est plus que dans l'ombre. Elle est même déportée. Et puis, hein, qu'est-ce qu'elle vient faire dans le plan de Dieu? Puis Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Ça, c'est merveilleux. Fait que prions. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer, parce que tu es un Dieu qui est merveilleux. Dieu, on vient de voir encore ce soir que de tout temps, c'est toi qui contrôles la vie. C'est toi qui donnes la vie. Et t'as permis à cette femme-là d'avoir un fils. Ce fils-là, il est mort et tu l'as ressuscité. Et Dieu, ça nous rappelle encore aujourd'hui comment est-ce que tu es ce Dieu qui désire donner la vie, qui désire communiquer la vie. Et oui, Dieu, on voit encore la mort près de nous de nos jours, mais on sait, Dieu, que tu es fidèle en toutes choses. Et on sait que tu ne nous trompes pas. Et on sait que la vie, cette vie éternelle que tu nous donnes, c'est pour l'éternité et qu'on sera toujours en relation avec toi. Dieu, on veut te louer pour ces exemples que tu nous donnes dans ta parole, de Élisée, de cette dame, comment est-ce qu'elle en avait pris soin. On veut regarder leur caractère, de voir comment est-ce que tu t'es glorifié à travers eux. Et Dieu, rechercher ce même comportement-là pour nos vies aussi. et de mettre en pratique ce que l'on connaît de toi. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen.
J'aimerais vous inviter à vous lever pour un dernier cantique. Le signal de la victoire.